Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'assassinat d'Alexandre Litvinenko. Le 23 novembre 2006, le monde entier découvre à la télé le visage agonisant d'un individu d'une quarantaine d'années. L'homme est un ancien agent du KGB, réfugié à Londres, désormais cloué sur un lit d'hôpital. Son histoire est digne d'un roman d'espionnage. Il est en effet conscient, mais condamné, empoisonné par une substance radioactive dont on ne découvrira le nom qu'après sa mort, le polonium. Durant sa lente et pénible agonie, l'homme participe à l'enquête de Scotland Yard pour retrouver ses propres assassins, éléments qui évidemment renforcent l'aspect dramatique de l'affaire. Très vite, un faisceau d'indices oriente la police sur la thèse d'un acte commandité par les services de renseignement russes. Une opération qui fleure bon les méthodes d'élimination du temps de la guerre froide. Quelques semaines seulement après l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya en pleine rue à Moscou, le nom d'Alexandre Litvinenko vient s'ajouter à la longue liste de ces dissidents politiques russes qui ont payé de leur vie leur opposition publique à Vladimir Poutine. Ce genre d'affaires, le journaliste et producteur Patrick Pénault le connaît bien. Pendant 18 ans, avec l'aide de Monsieur X, il en a décrypté de nombreux, souvent les plus complexes, tous les samedis. Dans son émission Rendez-vous avec X sur France Inter, il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour Fabrice.
À tout à l'heure. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attachée de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pirard, programmation musicale Muriel Pérez, la technique aujourd'hui Julien Michel.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Londres, jeudi 21 janvier 2016. La capitale britannique se réveille. Dans les rues, passants, bus et taxis reprennent leur balai quotidien. Voilà plusieurs jours, en effet, que règne dans la capitale britannique une certaine agitation. Dans les médias, les émissions spéciales se suivent et toutes se penchent sur les détails d'une affaire judiciaire très sensible, le dossier Litvinenko. Les faits remontent à une décennie et se sont déroulés en plein cœur de Londres. Au mois de novembre 2006, un homme de 43 ans meurt à l'hôpital. La police découvre vite que la victime n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, loin de là. Ancien officier des services secrets russes, il bénéficie de l'asile politique en Grande-Bretagne. Très vite, l'enquête démontre qu'il a été empoisonné par une substance radioactive, le polonium-210. Très vite aussi, les enquêteurs de Scotland Yard suspectent deux hommes russes, eux aussi, Andriy Lugovoy et Dimitri Kovtun. Mais au bout de plusieurs semaines d'investigation, la police et la justice britannique doivent se rendre à l'évidence, on leur met des bâtons dans les roues. Et ces bâtons, ils viennent de Moscou, où le Kremlin refuse toute audition et extradition des deux suspects que réclame le Royaume-Uni. L'affaire Litvinenko prend alors une toute autre dimension. Les Anglais soupçonnent les autorités russes d'avoir téléguidé le meurtre. La machine diplomatique entre Londres et Moscou se crispe, et bien sûr, la machine médiatique s'emballe. Et pour cause, elle tient une bonne histoire dont on pourrait faire un film. Si 10 ans après, l'assassinat d'Alexandre Litvinenko refait surface, c'est parce que pour la première fois, un juge britannique s'apprête à rendre les conclusions d'un rapport d'enquête qui, selon plusieurs médias britanniques, accable le Kremlin. Il est un peu plus de 14h ce jeudi 21 janvier 2016 lorsque Sir Robert Owen témoigne à la barre du tribunal spécial de Londres. L'homme âgé d'une soixantaine d'années est un ancien haut magistrat anglais. Désormais à la retraite, il reste consultant pour le ministère de la Justice britannique. C'est ce même ministère qui, 6 mois auparavant, lui avait demandé de prendre le relais de l'enquête judiciaire et de mener sa propre investigation publique et indépendante sur le cas Litvinenko. Résultat de son travail, on aperçoit sur la table devant lui, au tribunal, 3 gros dossiers de près de 338 pages. À l'intérieur se trouvent les procès-verbaux des auditions de 62 témoins, des photos de toutes les pièces matérielles de l'enquête, des notes d'analyse des services secrets britanniques, des relevés d'expertise, rien ne manque. Le travail est d'une rigueur digne de Sherlock Holmes. Et quand on lui demande quelles sont ses conclusions sur le dossier, la réponse de l'ancien juge est sans appel.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Alexandre Litvinenko a été empoisonné par M. Lugovoy et Kovtun. Il n'existe aucune preuve qui prouve que ces hommes aient des raisons personnelles de tuer M. Litvinenko. toutes les preuves pointent dans une seule direction. Quand ils ont tué M. Litvinenko, ils agissaient sur ordre de quelqu'un d'autre. J'en conclus qu'il existe une forte probabilité que lorsque M. Lugovoy ait empoisonné M. Litvinenko, il l'a fait sur l'ordre du FSB, l'Agence fédérale de sécurité. J'en conclus également que cette opération du FSB pour tuer M. Litvinenko a été probablement approuvée par M. Patrouchev, le directeur du FSB, mais aussi par le président Poutine.
Vladimir Poutine. Les accusations du Johan sont graves. L'information fait la une de tous les journaux télé du soir, en Grande-Bretagne, mais aussi en Europe, où Vladimir Poutine n'apparaît pas comme un modèle de dirigeant démocrate et respectueux des droits de l'homme. Et sa réaction est à l'image de sa morgue habituelle. Par la voix de son porte-parole, Poutine déclare « L'enquête britannique s'apparente à une blague ». Visiblement, on peut relier ça à l'élégant humour britannique, sauf qu'ici, il n'y a personne pour en rire. Pour les autorités russes, les Anglais donnent une dimension politique à une simple affaire criminelle. Un avis partagé par le principal suspect du dossier, Andrei Lugovoy, qui y voit une caricature des positions anti-russes de Londres. Pour une grande majorité de Britanniques, la main du Kremlin ne fait aucun doute dans cette affaire. Interrogés sur les plateaux télé, de nombreux experts sont eux aussi formels sur l'implication des services de renseignement russes dans le meurtre d'Alexandre Litvinenko. Pourtant, de grandes questions restent en suspens. Quelles sont les raisons qui ont pu conduire les autorités russes à prendre la décision d'assassiner cet homme, déjà? Et puis, pourquoi avoir choisi la méthode de l'empoisonnement radioactif, de surcroît en plein cœur d'une capitale européenne? Pour le comprendre, il faut comme bien souvent remonter le temps et revenir 15 ans plus tôt sur les pavés de la Place Rouge à Moscou, à une période où l'histoire du monde bascule en direct à la télévision.
Дорогие соотечественники,
chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS.
Mercredi 25 décembre 1991, depuis son bureau du Kremlin, Mikhail Gorbatchev annonce qu'il démissionne, poussé par Boris Eltsine et tous ceux qui font table rase de ses réformes pourtant courageuses, de son refus de réprimer les volontés émancipatrices des pays d'Europe de l'Est, de sa capacité à faire basculer l'histoire, y compris à son corps défendant d'ailleurs. Bref, à bout de souffle, comme son pays, Gorbatchev jette l'éponge et l'URSS s'effondre. Sur ses traces, la jeune fédération de Russie prend son envol, mais pour une destination inconnue. Une page de l'histoire se tourne, après les soubresauts consécutifs à la chute du mur de Berlin 2 ans plus tôt, cette fois c'en est bel et bien fini de la guerre froide. Pour le nouveau président russe, Boris Eltsine, la tâche s'annonce immense. Alors, débordé sur tous les fronts, le pouvoir politique à Moscou ferme les yeux sur les rachats des entreprises d'État. Le pétrole, le gaz, mais aussi le charbon, secteur florissant, bascule dans l'escarcelle du privé. Une oligarchie fait main basse sur toutes les richesses d'un pays qu'elle se partage comme une galette des rois, avec comme fève le contrôle du pouvoir, dans l'ombre. Et ce sera la règle dans la Russie des années 90, toutes portes ouvertes à la corruption. La chute de l'Union soviétique marque aussi des changements profonds au niveau de l'administration et des services. Ainsi, place de la Loubianka à Moscou, le célébrissime organe de renseignement de l'URSS, le KGB, est dissous. Une partie de ses nombreux agents et officiers sont licenciés et renvoyés à la vie civile. Sur ses ruines, un nouveau service voit le jour, le FSB, pour Bureau fédéral de sécurité. Et à son tour, il devient très vite corrompu, en proie à tous les trafics. Pour 100 dollars de l'heure, certains de ses agents louent leurs services à des criminels et à la mafia, oui, pour des filatures, des écoutes téléphoniques, enfin, toutes sortes d'opérations d'intimidation. Autrefois, bras armé du Parti communiste, la centrale du renseignement FSB joue désormais le rôle de garde prétorienne pour un certain nombre d'oligarques. Ces derniers l'utilisent pour arrêter et placer en détention des rivaux économiques qui ne sont en rien des ennemis de la Russie. Ainsi, les années passent et le FSB vérolé à l'image de la Russie de M. Eltsine. Au sein de la centrale de renseignement, un petit groupe d'officiers gradés s'inquiète de cette situation. Eux, qui défendaient jadis les intérêts politiques de l'Union soviétique au KGB, refusent d'être les pantins des milliardaires moscovites. En 1998, ils demandent à rencontrer leur directeur, un certain Vladimir Poutine, pour se plaindre de toutes ces dérives. Craignant pour leur vie, ils enregistrent quelques jours plus tôt leur déposition dans le plus grand secret face à la caméra d'un journaliste. Le premier d'entre eux, le lieutenant Andrein Pumkin, raconte.
Les gens qui dirigent le FSB sont en train de créer un système dangereux. En fait, ils veulent que nous, qui sommes capables de liquider n'importe quel problème, n'importe quel gêneur, nous exécutions des ordres illégaux. Comme par exemple des kidnappings, des meurtres d'hommes d'affaires ou de personnalités politiques influentes dans le pays. Mais aujourd'hui, comme la direction du FSB n'arrive pas à contrôler ces gens-là, eh bien ils veulent tout simplement que nous nous en chargions.
Assis aux côtés d'Andrein Pumkin, il y a trois autres officiers. L'un d'eux a 35 ans, il a le grade de lieutenant-colonel. À l'époque, il n'est pas connu. Il s'appelle Alexandre Litvinenko. Issu d'un milieu modeste, Litvinenko est un pur produit des services de renseignement de l'époque soviétique. Patriote, il s'engage dans l'armée à 17 ans. Formé dans un collège militaire, il intègre ensuite le service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Puis en 1988, il entre au KGB où il devient lieutenant-colonel. À la chute de l'Union soviétique, l'officier Litvinenko est incorporé au siège central du FSB à Moscou. Il participe ensuite aux opérations spéciales en Tchétchénie en 1994. Opération, on le sait, d'une rare violence, enlèvement, dissidents politiques torturés. Litvinenko en ressort meurtri. À son retour à Moscou, il intègre l'unité spéciale anticriminalité et découvre l'ampleur de la corruption dans son pays. Écœuré, il veut alerter ses responsables. Sa rencontre en 1998 avec le directeur du FSB, Vladimir Poutine, se solde par un sermon plus ou moins menaçant. Poutine lui conseille de garder pour lui ses remords et de continuer à agir en patriote, un mur. Conscient qu'il ne pourra pas changer les choses, Litvinenko décide avec quelques-uns de ses camarades de médiatiser le combat et se présente face à la presse en novembre 1998.
La situation est grave au FSB. Le bureau utilise ses ressources pour des particuliers, et ce, en dehors de tout contrôle politique et constitutionnel.
Ces déclarations provoquent une onde de choc en Russie. Pour le Kremlin, Litvinenko est désormais un traître. Donc, au mois de mars 1999, la police l'arrête et l'emprisonne pendant 8 mois. À sa sortie, Litvinenko assiste impuissant à la prise de pouvoir par son ancien chef FSB, Vladimir Poutine. Tour à tour, Premier ministre, puis président de la Russie, Poutine est aussi intouchable qu'inquiétant. Pour Litvinenko, une seule solution, la fuite à l'étranger. C'est en novembre 2000, après bien des péripéties, qu'Alexandre Litvinenko arrive à Londres avec sa famille. Après une tentative d'exil avortée aux États-Unis, le choix s'est rabattu sur la capitale britannique. Pas par hasard, car c'est ici même, en Angleterre, que vit l'un des soutiens les plus influents des Litvinenko, soutien et ami, Boris Berezovsky. Ce dernier leur trouve immédiatement une maison, il verse un confortable salaire d'appoint à Alexandre et prend en charge les frais de scolarité de leur enfant. Berezovsky est un milliardaire ex-oligarque, ancien conseiller officieux du président Eltsine, tombé en disgrâce à l'arrivée de Poutine. Litvinenko et Berezovsky se sont rencontrés des années plus tôt, en 1994, lorsque l'ancien agent du FSB avait refusé de l'arrêter et l'avait même averti qu'on cherchait à l'éliminer. Berezovsky avait pu prendre la fuite à Londres, bien conscient qu'il devait la vie à Litvinenko. Une raison qui explique sans doute l'aide et le soutien que le milliardaire lui fournit en retour à Londres. Mais pas totalement désintéressé. Berezovsky a en effet un autre projet en tête. Il veut nuire à Poutine, il veut le décrédibiliser. Conscient de l'intérêt des informations que possède Litvinenko, il lui demande alors d'écrire un livre. Ainsi sort le pamphlet « Blowing Up Russia », 2 ans plus tard, livre dans lequel Litvinenko parle de corruption et de trafic dans la Russie de Poutine. Mais l'ancien agent du FSB va plus loin. Il affirme que c'est son service, oui, qui se cache derrière la série d'attentats à la bombe qui a traumatisé la capitale russe durant l'été 99. une opération montée de toutes pièces pour permettre à Poutine de légitimer son pouvoir par la force et de partir en croisade une nouvelle fois en Tchétchénie. À sa sortie, l'ouvrage fait grand bruit en Europe et en Russie. Alexandre Litvinenko vient de signer son arrêt de mort à Moscou, au siège du FSB. On ne tolère plus les écarts de l'ex-officier Litvinenko. Preuve en est, son portrait sert de cible pour les entraînements de la police. Dès l'année 2004, et dans le plus grand secret, un plan est mis en place pour l'éliminer, comme le découvrira bien plus tard la journaliste Manon Loiseau, dans le cadre de son enquête pour le documentaire « Meurtre en série au pays de Poutine », produit par Kappa. Durant ses investigations, elle rencontre Mikhaïl Trepashkin, un ancien agent du FSB. Il lui révèle alors la conversation qu'il a eue avec un homme des services secrets au moment où il était lui-même en prison.
Cet homme m'a dit « Arrête tes enquêtes, réglons son compte à Litvinenko, il ne t'arrivera rien. Pourquoi veux-tu donc enquêter sur les attentats de Moscou ?» Il m'a dit ouvertement qu'un groupe avait été spécialement créé pour éliminer Berezovski, Litvinenko et tout son entourage. Ce groupe était constitué d'agents des services secrets, des anciens et d'autres encore en activité. Des gens qui avaient de l'expérience dans ce domaine et qui avaient un plan précis, celui d'éliminer leurs ennemis.
À la même période, à Londres, Alexandre Litvinenko collabore avec les services secrets britanniques, auxquels il livre de précieuses informations sur les réseaux d'espionnage russes en Europe. Échange de bons procédés, il obtient le droit d'asile et un passeport anglais. Un élément qui, pense-t-il, lui garantit une certaine protection contre Moscou et le FSB. En juillet 2006, tel un signe annonciateur, l'Assemblée parlementaire russe, la Douma, vote une loi spéciale proposée par le Kremlin. Dans les grandes lignes, elle autorise l'élimination physique de toute personne considérée comme terroriste ou extrémiste par les services spéciaux du FSB. La loi s'applique sur tout le territoire de la Fédération de Russie, mais aussi à l'étranger. Autrement dit, le Kremlin délivre à ses agents un permis de tuer. La nouvelle bouleverse Alexandre Litvinenko. Il est certain d'être sur la liste. Il le confie à sa famille d'ailleurs. Et cet épisode renforce ses craintes. Un sentiment très vite conforté par un autre événement dramatique, quelques mois plus tard.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, nous parvient une nouvelle tragique en provenance de Moscou. En effet, on a retrouvé le corps sans vie de la journaliste Anna Politkovskaya, en bas de chez elle. Sur place, on a également retrouvé un pistolet et quatre doubles.
Anna Politkovskaya était une des journalistes les plus intrépides de Russie, une des rares qui n'avait pas peur de critiquer le pouvoir pour défendre ses idées. Les révélations qu'elle avait faites dans ses livres et ses nombreux articles sur la guerre en Tchétchénie avaient fait couler beaucoup d'encre et avaient provoqué un début de scandale en Russie.
En octobre 2006, la journaliste de Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya, meurt dans des circonstances que la police russe elle-même qualifiera plus tard d'exécution. Celle qui osait porter la critique contre Vladimir Poutine et la guerre en Tchétchénie disparaît. Litvinenko connaissait Anna. Il partageait son combat. Sa mort l'affecte profondément. Quelques jours plus tard, à Londres, lors d'une cérémonie en son hommage, il prend la parole et il accuse.
Mon nom est Alexandre Litvinenko. Je suis un ancien officier du KGB et du FSB. Je crois que parce que je suis ici, je dois vraiment parler et vous dire les choses. Je ne veux rien cacher et je suis content que les médias couvrent cela. À celui qui demande qui est le responsable de la mort d'Anna, je peux lui répondre directement qu'il s'agit de Monsieur Poutine, le président de la Fédération de Russie.
Ces accusations brutales font sensation. Litvinenko dit tout ce que tout le monde en Europe pense, évidemment tout bas. Vladimir Poutine est prêt à tuer les dissidents et opposants politiques pour se maintenir au pouvoir. En rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre Litvinenko confie à sa femme « Je suis sûr d'être prochain sur la liste. » L'histoire va lui donner raison.
Все твои праздники мой.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Litvinenko. Nous sommes à Londres, le 1er novembre 2006, dans le quartier du Mayfair. Il est un peu plus de 17h. Alexandre Litvinenko marche le long de la place de Governor Square. À sa gauche, l'imposante ambassade des États-Unis avec ses caméras, ses barrières anti-intrusion et ses marines armées de fusils M16. À sa droite, une statue hommage au président américain Franklin Roosevelt. Depuis les attentats du 11 septembre, ce quartier est devenu une zone sensible de l'agglomération londonienne. Un grand nombre de policiers patrouillent en permanence. Un signe rassurant pour Litvinenko, personne ne tentera de l'assassiner ici. Aujourd'hui, il a rendez-vous au bar du luxueux Millennium Hotel avec deux hommes, deux Russes, Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun. L'objet de leur rencontre, les affaires. Depuis plusieurs mois en effet, Litvinenko s'est reconverti dans le renseignement pour des cabinets de détectives londoniens. Pour eux, il active ou réactive ses contacts dans les services de renseignement. Il obtient de précieuses informations sur des dirigeants d'entreprises russes qui commercent en Angleterre. Une expérience prospère pour l'ex-officier du FSB. D'ailleurs, les deux hommes qu'il doit voir se présentent eux aussi comme des ex-agents du Bureau fédéral de sécurité. Ils se sont rencontrés là et se sont revus récemment lors d'une soirée de gala chez leur ami commun, Boris Berezovsky. À 17h15, les trois hommes s'assoient autour d'une table. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent en trois mois. La tradition russe veut que l'on ne discute pas sans avoir trinqué. Alexandre, qui ne boit jamais d'alcool, accepte un thé vert au miel et au citron. Il n'en boit qu'une petite gorgée, puis, à la fin de la réunion, il rentre chez lui, en taxi. Le soir même, il est pris de terribles douleurs à l'estomac et se met à vomir à plusieurs reprises. Ce qu'il recrache est de couleur grisâtre. Il y a aussi beaucoup de sang. Son épouse, Mariana, témoigne.
Quand il est devenu malade, dès la première nuit, il m'a dit « Tu sais, Marina, j'ai pu manger quelque chose d'empoisonné, peut-être un poison chimique. » Pendant sa formation militaire, il avait étudié les symptômes d'un empoisonnement chimique et il m'a dit « ça y ressemble ». Moi, je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas croire que ça puisse arriver en Angleterre, à Londres. Mais pour lui, c'était vraiment évident.
Au bout de deux jours, Alexandre Litvinenko n'arrive plus à se tenir debout et se plaint de quelque chose qui, à l'entendre, est à l'intérieur de lui, qui lui déchire l'abdomen. On décide de l'hospitaliser, mais son état ne s'améliore pas. Lui qui est pourtant si athlétique, sombre jour après jour dans un mal inconnu. Les analyses de sang ne donnent rien, alors on lui fait plusieurs scanners qui révèlent, eux, de graves hémorragies internes. Il est condamné, comme en témoigne l'un de ses plus proches amis, Alex Goldfarb.
Il est en très mauvais état, il a l'air d'un fantôme. Il a perdu ses cheveux, n'a pas mangé depuis 18 jours et il est nourri par intraveineuse.
Convaincu qu'il a été empoisonné, Litvinenko donne alors aux policiers tous les renseignements nécessaires pour reconstituer son emploi du temps. Et très vite, le soupçon s'oriente vers la piste russe et vers le FSB. D'autant plus qu'on retrouve du thallium dans le corps d'Alexandre, substance dont les effets sont comparables au mercure. La piste de l'empoisonnement est donc prouvée. Pendant ce temps, cloîtré sur son lit d'hôpital, Litvinenko, invalide, souffre le martyr.
Allongé là, j'entends distinctement battre les ailes de l'ange de la mort. Je réussirai peut-être à lui échapper, mais je dois avouer que mes jambes ne courent pas aussi vite que je le souhaiterais. Je pense donc que le temps est venu de dire une ou deux choses de ma maladie actuelle. Vous réussirez sans doute à me réduire au silence, mais ce silence aura un prix.
Après trois semaines de calvaire, Litvinenko s'éteint le 23 novembre 2006. Les proches qui viennent voir sa dépouille à l'hôpital témoignent de l'état tragique dans lequel ils le trouvent. Le cadavre de Litvinenko est celui d'un vieillard de 70 ans, chauve, décharné, la peau sur les os. Au même moment, les résultats de tests d'un échantillon d'urine reviennent. Ils sont positifs à une substance radioactive extrêmement rare, le polonium, un isotope qui sert dans l'industrie et l'armement nucléaire. Les traces retrouvées sont certains films, mais elles sont précieuses pour l'enquête, car elles confirment que les services secrets russes sont impliqués tout simplement, parce que la Russie fabrique à elle seule 97% du polonium dans une usine de recherche ultra secrète. Des traces de polonium, on en retrouve aussi à Londres.
Scotland Yard passe désormais au peigne fin l'hôtel Millennium et surtout son bar qui pourrait bien être le lieu du crime. Les médias affirment en effet savoir de sources policières que les niveaux de radiation y sont extrêmement élevés. Et il est vrai que la chaîne d'événements au Millennium semble confirmer ce scénario. Des trois Russes qui s'y sont rencontrés le 1er novembre, Alexandre Litvinenko est mort. Andrei Lugovoy, également ex-agent des services spéciaux russes, a semé partout où il est passé des traces de polonium. Dmitri Kovtoun a lui aussi été contaminé. L'agence de presse russe Interfax a en effet annoncé qu'il souffrait d'un empoisonnement aigu par radiation était dans un état critique, ce qui a été démenti plus tard. Scotland Yard s'intéresse donc de très près aux déplacements de Kovtoun et Lugovoy qui sont venus à Londres à trois reprises en octobre. Des enquêteurs néanmoins très frustrés qui voient leurs interrogatoires entravés par l'hospitalisation des deux hommes et la supervision tatillonne des autorités russes.
Dans les jours qui suivent, on découvre également des traces de polonium dans des avions de la compagnie British Airways, ceux-là même dans lesquels ont voyagé Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtoun. Alors que l'enquête avance et que la piste russe semble plus sérieuse que jamais, Moscou refuse d'auditionner les deux suspects rapatriés. Raison de santé, affirme-t-on. Les relations entre Londres et la capitale russe se tendent, à l'image des mesures prises par le ministre des Affaires étrangères britannique, David Miliband.
Nos objectifs sont clairs. D'abord, faire progresser le processus judiciaire. Ensuite, faire en sorte que le gouvernement russe assume les conséquences de son refus de coopérer. Enfin, nous engager à assurer la sécurité des citoyens britanniques et des visiteurs. Pour cela, premièrement, nous allons expulser 4 diplomates de l'ambassade russe à Londres. Deuxièmement, nous allons réexaminer notre coopération avec la Russie sur plusieurs sujets. Et pour commencer, nous allons suspendre la délivrance des visas aux Russes et nous allons changer notre mode d'attribution de ces visas. Troisièmement, les accords internationaux signifieront que M. Lugovoy pourra être extradé s'il voyage à l'étranger. Nous discuterons aussi avec le Parlement des besoins d'un engagement de l'Union européenne face à la Russie pour qu'elle prenne en compte nos préoccupations en ce qui concerne cette affaire.
Les autorités russes réagissent en expulsant à leur tour 4 diplomates de l'ambassade du Royaume-Uni. Alors un bras de fer commence. Pour les Russes, il n'existe aucune preuve que Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtoun, leurs deux ressortissants, soient impliqués dans l'empoisonnement de Litvinenko. Pourtant, à leur retour à Moscou, les deux suspects ont été décorés de médailles militaires. L'un d'eux est même devenu député pour le parti Russie Unie, celui, tiens donc, de Vladimir Poutine. Dans les mois et les années qui suivent, l'affaire Litvinenko s'enlise dans des demandes d'audition, d'extradition, d'expertise, de procédures stériles. Il faut attendre janvier 2016 pour qu'enfin, par l'intermédiaire du juge Owen, on n'ait plus beaucoup de doutes sur cette affaire et qu'on attribue l'assassinat au FSB. À bien des égards, la mort d'Alexandre Litvinenko épouse tous les standards de la guerre froide, offrant à cette histoire un scénario solide, mais qui semble s'être trompé d'époque.
Dès les premières lueurs, je sombre.
Il me paraît bien loin l'été, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai perdu la raison. Et le temps peut bien s'arrêter, peut bien me confisquer toute notion des saisons. Thank you.
non, vous ne rêvez pas. On se croirait samedi,
ça me rappelle 13h30,
n'est-ce pas? La voix que vous entendez, celle de Patrick.
C'est même émouvant.
N'est-ce pas?
Je vais vous dire.
Bon, bah, écoutez, nous sommes heureux de vous recevoir. Faites comme chez vous, si je puis dire. On vous connaît depuis 18 ans pour la fameuse émission Rendez-vous avec X. Et puis j'ai entre les mains votre dernier livre, Patrick Penaud, qui s'appelle Les Maîtres de la Terreur. Alors c'est une galerie de portraits d'affreux Jojo. Ça commence par Fred Desgondes, ça c'est la cruauté des Mérovingiens. Ça passe par Attila, Ivan le Terrible, qui faisait dévorer ses victimes dans les arènes par des ours. Enfin,
c'est un voyage dans l'horreur.
Un voyage dans l'horreur, Pol Pot. Voilà, tout à fait passionnant. Alors je vous voyais réagir pendant le récit. Vous avez fait partie de ceux qui dès le début ont pointé du doigt la responsabilité des services secrets russes dans cette affaire. Vous vous êtes intéressé à cette affaire. Quand vous l'avez découverte, vous vous êtes dit, oulala, il y a tous les ingrédients d'un polar guerre froide, en fait, post-guerre froide, c'est ça?
Ah, exactement, oui, parce que Litvinenko est un personnage bizarre. Hein,
alors là, on le présente comme la victime. Hein,
oui, d'accord.
Donc la victime est toujours un peu héroïsée, mais dites-moi.
Oui, parce que déjà, son apparentement, son amitié, entre guillemets, avec Berezovski, hein, qui était quand même un des dépeceurs de l'URSS, il ne faut pas
le dire. Un oligarque.
Moi, m'a toujours semblé curieuse. Mais enfin, bon, on peut être aussi un honnête homme et être parfois à coquiner avec des gens pas très propres. Mais enfin, je crois qu'il y a eu deux ou trois fêlures chez ce type. La première fêlure, vous l'avez évoquée vous-même, c'est la première guerre de Tchétchénie, où manifestement, il a vu des horreurs. Donc il revient à Moscou, il va y avoir une deuxième fêlure. Et celle-là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il découvre à l'intérieur du FSB, donc le service héritier du KGB, il découvre qu'il existe une véritable bande de tueurs. Voilà. Et ça va tellement loin que un policier honnête à l'intérieur du FSB, Tsai va le payer de sa vie. Et il va mourir un peu, au fond, comme Litvinenko, ce type qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui a une vie parfaitement réglée. En 2 mois, il est liquidé. Il meurt. Mmh. Bon, cirrhose du foie, ton prétendu, moi, j'y crois pas. Et ça, à mon avis, ça a frappé, c'est en 97, ça a frappé Litvinenko, et ça a sans doute élargi la fêlure qu'il y avait déjà en lui. Et puis, il y a Berezovski. Alors là, c'est étonnant, Berezovski. Parce que Berezovski, qui va devenir son, comment dirais-je, son mentor, au moins de
protecteur et mentor,
au moins politique, Berezovski, c'est quand même un curieux personnage. Il va jouer un rôle, pour le moins, très trouble en Tchétchénie. Alors, je vous explique en 2 mots, ça va pas être long. Mais en Tchétchénie, sur laquelle Berezovski a des vues, parce qu'il voudrait bien
faire des affaires là-bas.
Oui, se faire des affaires là-bas, avoir la maîtrise du pipeline qui passe à travers la Tchétchénie. Enfin bref, Berezovski, qui a été nommé un haut poste dans le domaine de la sécurité, et en particulier il a la charge de la Tchétchénie, va faire en sorte que la Tchétchénie devienne l'épine plantée dans le dos de la Russie, la Fédération de Russie. Et il va pousser, lui, pour que l'épine rentre la plus loin possible. Il va, par exemple, financer un chef tchétchène islamiste qui va, à 2 reprises, faire des incursions sur le territoire de la Fédération de Russie, au Daghestan. Et ça va alimenter la haine anti-tchétchène en Russie. Et puis après ces 2 incursions, qui sont suivies d'ailleurs de bombardements de la Tchétchénie par l'aviation russe, il va y avoir ces fameux attentats qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, d'abord, 2 attentats à Moscou, 2 attentats énormes. On va compter dans le premier, je crois, 100 de morts, et dans le deuxième, ça va être pareil.
Ces machinations des services secrets russes pour le pouvoir russe, pour qu'il puisse intervenir en Tchétchénie en toute légitimité.
Exactement, parce que c'est très troublant, si vous voulez. Après, il y en aura un autre à côté de Rostov.
Ouais.
Mais c'est très étonnant parce que là, on est en août-septembre 1999. Poutine, qui a largement été aidé par Berezovski est devenu Premier ministre, avec un président de la Russie qui est en très mauvaise posture, non seulement parce que tous les scandales de son de sa présidence vont éclater, mais aussi parce qu'il est malade. C'est un homme ruiné, alcoolo, enfin bref. Donc, Poutine est en place, il est Premier ministre. Et il a été placé là par son ami Berezovsky. Arrivent les attentats qui déclenchent dans toute la Fédération de Russie une haine du caucasien, du noir, comme ils les appellent.
D'où cette guerre terrible, une violence épouvantable. Enfin, toutes les guerres sont violentes, mais des exactions, des crimes de guerre.
Et pour mater ces Tchétchènes et pour venir à bout de ces voyous et de ces sauvages, eh bien, il y a un homme providentiel. C'est Poutine, et Poutine qui va obtenir la démission, fin de l'année 1999, de Yeltsin. Et là, voilà, il a gagné.
Le verre est dans le fruit, on voit la façon de gouverner, la façon d'agir, avec une violence qui apparaît pour eux, en tout cas, naturel, entre guillemets, comme un outil, bon, voilà. Litvinenko est quand même choqué par ça, même si c'est un drôle de bonhomme aussi.
Oui, il apparaît. Bon. Avec son amitié avec Berezovsky est pas claire, mais enfin bon.
Non, enfin quand même. Alors, maintenant, il y a la méthode. Alors, la méthode, la substance radioactive, polonium-210, j'imagine que c'est pas la première fois que le FSB l'emploie. Et vous disiez qu'il était héritier du KGB. Poison,
bien
KGB,
sûr, le KGB était réputé pour avoir un laboratoire des poisons particulièrement efficace. Et, bon, là on n'a pas le temps, mais si on faisait la liste de tous les morts violentes des années 90, on trouverait sans doute la main du FSB dans pas mal de ces morts violentes. Et donc, oui, pourquoi pas le polonium 210 ça. Quand même, une chose m'étonne, moi.
Laquelle?
Eh ben, c'est que c'est pas... C'est un peu voyant.
Oui,
c'est un peu voyant, comme... Et alors, y a eu des précédents. On sait que dans certains empoisonnements politiques, on s'est trompé sur la dose.
Mais lesquels, par exemple?
Y a un exemple français. Nos services secrets, c'était le SDEC à l'époque, ont eux aussi usaient de poison. Il y a la fameuse histoire de l'assassinat de Félix Moumier. C'est un sketch extraordinaire, enfin sauf qu'il s'est terminé malheureusement par la mort de ce malheureux Camerounais. Mais un agent français dîne à Genève avec Félix Moumier. On prend l'apéro, hop, on lui verse dans son pastis un peu de thallium. Et Moumier, qui est très bavard, parle tant qu'il oublie de boire son pastis. Alors, l'agent secret français se débrouille pour verser une deuxième dose de thallium dans son vin. Et il dit, ça y est, là. Parce que là, c'est calculé pour faire en sorte que Moumier meure
après.
En Afrique.
Oui.
Voilà.
Pas tout de suite, quoi.
Pas tout de suite.
En Suisse.
Pas tout de suite. Mais à la fin du repas, Moumier avale l'apéritif et il avale le vin. Double dose.
Quelles années, ça, à peu près?
Ça doit être 60 et
40. Les années 60, oui.
Double dose, et c'est la catastrophe parce que Moumier va mourir en Suisse et les Suisses, ils n'aiment pas beaucoup ce genre d'affaires.
Bon, alors, tout porte à croire qu'effectivement, c'est une opération commanditée, organisée par le FSB et commanditée par Vladimir Poutine. Je vous pose la question, c'est votre sentiment aussi?
Oui, non, ça c'est... Moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. J'ai eu des doutes sur la personnalité de Vienko, j'ai eu des doutes, bien sûr, sur Berezovsky, mais ça me paraît signé. Et ce qui m'étonne, alors, vraiment, c'est que toutes ces affaires, et Dieu sait s'il y en a eu depuis quelques années, toutes ces affaires qui criminalisent l'action de Poutine passent sur lui comme s'il était couvert d'huile. Rien ne se passe jamais.
Rien n'atteint.
Et je vais vous dire une chose, moi je suis persuadé, il n'en a rien à faire.
Bon, enfin quand même, il sait que ça peut se retourner contre lui diplomatiquement.
Rien ne se passe. On a dit récemment, on a parlé de sa fortune immense. Bien sûr, c'est pas en son propre nom. Mais qu'y a-t-il eu comme réaction? Il a rigolé, Poutine. Comme il a rigolé, d'ailleurs, quand on a accusé le FSB d'avoir empoisonné Litvinenko.
Bon.
Alors, immunisé.
Il est immunisé. Enfin, quand même, le 21 janvier 2016, donc le juge Owens, on l'a entendu dans le récit, conclut devant un tribunal de Londres que derrière cette affaire, on retrouve le président russe. Alors, mais quand même, on imagine, il se passe quelque chose comme ça, on imagine deux chefs d'État, hein, le premier ministre britannique, le président russe, il doit y avoir une explication à un moment. Comme, après, on négocie, on dit bon, tu te tais.
Non, je crois qu'il a.
Qu'est-ce qu'on fait?
Je crois qu'il a rigolé. Il a. Et en ce moment, il faut pas oublier que Poutine, en particulier à cause de la Syrie, est en position de force.
Mmh, il a toujours été en position de force.
Regardez sur l'Ukraine, il a pas cédé d'un pouce. Mmh. Il a toujours nié contre l'évidence qu'il. La présence de soldats russes en Ukraine. Enfin bon, il ne cesse de nier ce dont on l'accuse, et malheureusement, ça passe à chaque fois.
Alors, on va écouter ensemble une archive, Patrick Pédot. On va écouter Marina Lidenko, la veuve d'Alexandre. Hein. Alors, elle est persuadée que la mort de son mari est plus complexe que ce qu'on avance. Bon, on va l'écouter.
Lugovoy n'avait pas de raison de tuer Sacha. Ce n'était pas une vengeance personnelle, rien de tout ça. Il a simplement été l'arme que quelqu'un a utilisée. Et là est la question, qui a utilisé Lugovoy pour tuer mon mari? Et le polonium rend tous les scénarios possibles. On peut imaginer n'importe quelle conspiration.
Bon, voilà, elle dit que l'explication est trop simple ou trop compliquée d'ailleurs, en fait, elle ne sait pas. Hein.
Non,
je Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Et quelles sont-elles?
Non, moi je pense que, pour revenir au départ, je pense que Litvinenko avait accumulé des preuves contre le FSB, donc contre Poutine, dans la commission des attentats de Moscou et de Rostov. Et il avait retrouvé en particulier un homme qui était compromis, malgré lui, dans ses affaires. C'était l'homme qui louait les caves dans lesquelles ont été placés les explosifs. Et pas n'importe quel explosif, de l'exogène et du TNT, c'est-à-dire des explosifs qui sont utilisés par l'armée. Autre signe, enfin bon. Et ce type avait été approché par un ancien camarade de classe qui s'est révélé être un agent du FSB. Mmh. Cet homme lui en dit, bah voilà, j'ai des marchandises à entreposer, est-ce que je peux faire ça dans les caves des immeubles que tu loues. Voilà. Donc ce type était un témoin privilégié et qui a tellement privilégié qu'il a compris très vite quand il a appris où s'étaient passés les attentats. Qu'il a préféré prendre la file de l'air le plus vite possible. Et il est passé en Géorgie, et à mon avis, là, Litvinenko l'a retrouvé, et a sans doute recueilli son témoignage, un témoignage capital pour l'enquête sur les attentats.
Donc, il aurait mis sa vie en danger.
Ah, complètement, oui.
Peut-être encore plus que ses déclarations, enfin, pareil.
Ah, moi, je crois que c'est quand même grave quand on accuse quand même un service auquel on a appartenu.
Ouais.
D'avoir causé la mort de dizaines et de dizaines de Russes, là, on court un sacré danger quand même, hein. On prend des risques.
Alors, le parallèle, les résonances de cette histoire, somme toute récente par rapport à l'histoire de la guerre froide, donc résonance FSB, KGB. Vous avez beaucoup travaillé sur ces histoires
KGB,
de KGB, mais aussi FSB. Ce serait quoi un peu le portrait des parallèles et des différences entre
KGB,
les deux?
Le KGB a eu la chance, si on peut appeler ça comme ça, d'avoir un patron génial dans les années 70-80.
C'était Andropov.
Yuri Andropov. Oui. Yuri Andropov voyait très loin, beaucoup plus loin que ces personnages embaumés comme Brejnev et Tchernenko. Voilà. Yuri Andropov avait compris que l'URSS serait tôt ou tard, mais irrémédiablement, dépassée par l'Ouest. Mmh. Donc il a préparé, à sa manière, la suite, l'avenir. Poutine est un de ses disciples, un de ses poulains. Hein.
Le premier, c'est Gorbatchev. C'est,
oui, bien sûr.
Andropov est le pygmalion de Gorbatchev.
Gorbatchev n'était pas très loin du KGB non plus. Mais Poutine est arrivé un peu par hasard, mais enfin, il appartenait à l'école Andropov. Et Andropov, sachant que l'URSS, tôt ou tard, serait dépassé par l'Ouest, avait envisagé justement la suite. Et la suite, c'était la prise du pouvoir Une fois les événements tassés, après 90, c'était la prise du pouvoir en Russie, en dans la Fédération de Russie, la prise du pouvoir par des gens du KGB. Et quand on regarde l'ascension de Poutine, l'arrivée à la présidence des principales compagnies, de gens directement issus du KGB, on se dit qu'Andropov avait plutôt du flair.
Oui, l'homme était intelligent, de toute façon.
Incontestablement, c'était un des plus intelligents.
Ouais. Il n'est pas resté longtemps au pouvoir, hein,
non. Ben non, parce qu'il est mort. Alors, lui aussi, il est mort.
Hein? Ah bon?
Ben oui.
Ah, c'est intéressant. La mort d'Andropov, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la mort d'Andropov?
Ben la mort, d'une façon générale, la mort dans cet ancien empire soviétique, c'est toujours un peu problématique. Alors, avait-il vraiment des problèmes rénaux ou a-t-on un peu accéléré sa maladie? Tout est possible dans cet ancien empire soviétique.
Quand on est au pouvoir à Moscou, on meurt rarement de mort naturelle, c'est ça?
Regardez dans les années 90, on tombe de l'ascenseur ou de sa fenêtre, on est empoisonné en prenant le combiné de son téléphone. Enfin, les exemples sont multiples.
Alors, les services secrets, donc KGB encore, sous Mikhail Gorbatchev, où il y a quand même un infléchissement du grand fer, du pouvoir. Ça continue à fonctionner comme ça, malgré la présence de Gorbatchev?
Bien sûr, parce qu'on oublie un facteur encore plus important, c'est l'existence de la mafia rouge.
Oui.
La mafia rouge, bon, c'est des gangsters, mais des gangsters qui sont communistes. C'est-à-dire, c'est un système mafieux qui a exactement épousé le système communiste. Et à chaque strate du pouvoir communiste, il y a un mafieux. Au fond, il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir du Parti communiste et le pouvoir de la mafia rouge. Et à chaque échelon correspond un mafieux. Voilà.
Et sous Eltsine, pour le coup, parce que évidemment on est là sous Poutine depuis un certain nombre d'années, même si Medvedev a tenu le pouvoir, on sait très bien que celui qui tenait le vrai pouvoir c'était Poutine. Évidemment. Alors comment ça a fonctionné pendant cette période intermédiaire qui est celle de Boris Eltsine, les services secrets? On est entre deux, on est à la fois dans la tradition et ce qui va se passer.
À mon avis, c'est le FSB, donc héritier du KGB, prépare son retour au pouvoir. Voilà. Pendant que Boris Eltsine...
Le retour au pouvoir de qui?
Du KGB. Enfin, du FSB.
D'accord.
Voilà. Selon la méthode déjà théorisée par Andropov. Et pendant cette première décennie 90, que se passe-t-il au Kremlin? Au Kremlin règne ce qu'on a appelé la famille.
Oui.
La famille, c'est la famille Yeltsine. Ils s'en mettent tous plein les poches. Plein les poches. Ils s'en foutent du gouvernement, de la politique, etc. C'est un essai de dépecement gigantesque de l'URSS, enfin de feu l'URSS.
Avec la complicité d'Eltsine, d'accord.
Bien sûr. C'est la famille qui s'en met plein les poches. Ça. Donc, c'est comme ça que Berezovsky... va surgir, mais Berezovsky, Khodorkovsky, Abramovitch et les autres. Et alors, facteur aggravant, si j'ose dire, en tout cas pour l'opinion publique russe, beaucoup de ces oligarques qui vont rafler la mise sont d'origine juive. Et ça va provoquer des réactions violentes dans l'opinion, parce que, une fois de plus, ce sont les Juifs qui mettent la main sur nos richesses.
Bon.
Ce qu'on avait dit au temps de Staline.
Mais bien sûr. Alors, une toute dernière chose, le FSB est-il considéré aujourd'hui comme un service secret, un ensemble de services secrets efficaces? Parce que, plus ou moins efficaces, parce qu'il fait peur, mais il y a des bavures, mais est-ce que c'est un service qui fonctionne bien, quoi,
Oui, mais c'est plutôt, à mon avis, il y a des francs-maçonneries, quoi.
Des réseaux.
Parce que là aussi, chacun essaie de s'en mettre plein les poches. C'est le système russe actuel.
Décidément, on y revient toujours.
Oui, et le FSB, attention, le FSB c'est un service aussi de police. C'est non seulement un service de renseignement, c'est un service de police.
Très bien, merci infiniment Patrick Penaud de nous avoir apporté vos lumières et nourri par votre expérience d'avoir gratté plein d'affaires comme ça pendant 18 ans. Merci, au revoir, à très
vite. Merci.